Frédéric Rouls, là nous sommes en face le plateau de Fruits de Narcisse qui va être créé pendant quasiment une semaine, ici même à l'Opéra du Grand Avignon. Depuis que vous dirigez cet opéra, vous avez tenu à ce qu'il y ait des artistes associés. Il y a à peine quelques jours, on a découvert Aria, une création de Sandra Pochetsky et Giacomo Strada, qui sont deux artistes associés à l'opéra. Et là, eh bien, cet ouvrage lyrique est signé Joséphine Stephenson. Pour un directeur de maison d'opéra, est-ce qu'il est indispensable d'avoir un compagnonnage à long terme avec certains artistes?
Ce n'est pas indispensable, hein, mais je pense que ça crée, ça contribue en tout cas à un esprit de famille que j'aime à cultiver. On est une maison d'opéra, on dit souvent une maison d'opéra. Dans les maisons, il y a des familles avec des enfants, avec des amis. Et voilà, et je trouve qu'on a un chœur permanent, on a un ballet permanent, on a une maîtrise, on a l'orchestre évidemment qui est associé. Et je trouve bien aussi d'avoir des artistes individuels qui sont là pour une certaine durée et qui participent à la vie artistique de la maison avec leurs propres projets. On a cette capacité parce qu'on est de pouvoir les accompagner, de pouvoir aider à faire émerger des choses chez ces artistes-là. Donc c'est un peu notre mission. Et je pense que c'est aussi pour le public quelque chose de bénéfique, parce que ça permet pour les gens de suivre le parcours de quelqu'un, non pas à travers un seul concert ou un seul événement, mais à travers différents événements, différents concerts. Donc de voir plusieurs facettes de la personnalité des artistes en question, parfois surprenantes, parfois un peu audacieuses, comme c'était le cas pour Aria, qui était clairement un projet un petit peu radical. Et donc voilà, je trouve ça plutôt un acte d'ouverture d'esprit, voilà, et d'acceptation du risque aussi qui est nécessaire, voilà, que je crois important pour l'art en général, ne pas être que dans la production avec un résultat immédiat, mais aussi dans l'idée d'un parcours.
Il y a quelques jours, j'ai rencontré Joséphine Stephenson qui m'a simplement dit que vous lui avez passé commande d'un opéra, simplement en lui précisant que la saison serait placée sous le signe de la Lune. C'est un véritable chèque en blanc que vous lui avez signé.
Oui, alors chèque en blanc si on veut, mais c'était pour moi important de lui laisser une liberté totale et de ne pas lui imposer un sujet ou un livret ou des choses comme ça. Je pense que c'était important pour sa liberté artistique d'avoir effectivement carte blanche sur le choix du sujet et sur le choix de la forme musicale. Les contraintes, elles étaient quand même formelles, c'est-à-dire c'était de se baser sur la taille de notre orchestre avec éventuellement un ou deux instruments spéciaux, ce qu'elle a utilisé d'ailleurs, et la taille du chœur, c'est-à-dire notre chœur permanent de 20 chanteurs, pas faire un bon opéra avec un chœur de 60. Voilà, donc c'était l'idée de dimensionner aussi avec ce qu'on est nous, ce qu'on peut lui offrir nous comme outil. Mais à partir de ça, oui, l'outil, elle le connaissait, mais le contenu, elle pouvait y mettre ce qu'elle voulait. Le thème de la Lune, d'ailleurs, je ne lui ai pas imposé. Je lui ai dit, voilà, sache que ce sera la saison de la Lune si ça t'inspire. Et en fait, elle s'en est vraiment inspirée pour le coup avec son librettiste Ben Osborne.
Alors, vous me parlez d'histoire. En fait, ce n'est pas une histoire, mais trois histoires. La première autour de l'enfantement, la seconde autour de la maladie et la troisième autour de l'alerte et de l'engagement et de l'indignation d'une certaine manière. En même temps, d'après ce que j'ai vu et puis par rapport au fait qu'il y a des interprètes qui passent d'une histoire à l'autre, j'ai l'impression que les trois histoires finalement s'enchevêtrent d'une certaine manière. Ça, c'est lié au livret, à la partition, ou ça, c'est une idée du metteur en scène?
C'est un peu commun, ça. On s'en est beaucoup parlé de cette question-là avec le librettiste Ben et puis avec Joséphine et puis moi, dans mon point de vue de metteur en scène. Et il nous semblait important à tous les trois qu'on effectivement, on évite un effet d'addition de trois histoires sans qu'il y ait quelque chose qui les relie. Alors évidemment, il y a d'abord le fait que ce sont trois interrogations assez fondamentales sur notre société contemporaine. Mais effectivement, dans la construction même du récit, on passe d'une histoire à l'autre, mais on y passe de manière assez rapide et fluide, ce qui oblige dans la mise en scène à évidemment trouver des points de jonction. Enfin, moi, je l'ai souhaité comme ça et j'ai effectivement suggéré qu'il y ait un personnage qui soit commun à deux des trois histoires. Et puis il y a un autre personnage qui est le personnage du petit garçon, qui est un personnage de figuration, mais qui intervient lui carrément dans les trois histoires et comme une sorte de fil rouge, puis avec une scénographie qui est unifiée, qui ne différencie pas les espaces, mais qui utilise simplement des éléments pour représenter les points de référence d'une histoire ou d'une autre, mais avec une sorte de fluidité, de mobilité des éléments qui fasse qu'effectivement on peut se retrouver à tout moment dans un endroit ou un autre sans devoir franchir des portes, quoi.
Les figures du cercle, de la sphère, du voile aussi, hein. On ne va pas trop en dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un voile qui est très important sur le plateau. Jusqu'à présent, on a vu plutôt des mises en scène figuratives de votre part, que ce soit Peter Grimes ou Don Giovanni, que vous aviez présenté carrément aux quatre coins de l'opéra dans une version confinée. Mais justement, ces figures comme ça, très géométriques, comment sont-elles arrivées?
Alors ça tient vraiment à la personnalité de la scénographe Dori Deng. Avant d'être une scénographe, c'est une plasticienne anglaise, sino-anglaise. dont le travail est vraiment un travail sur la forme géométrique, sur la lumière, sur la vidéo, avec des choses très épurées. C'est une fille que Joséphine, dont elle connaissait le travail, elle me l'a suggéré. Et ça nous est apparu comme effectivement assez intéressant parce que ça envoie tout de suite les trois histoires vers une forme d'éternité, de référencement qui n'est pas complètement quotidien, alors que les histoires, elles, sont des sujets très quotidiens. Mais il y a une sorte de, voilà, d'éternité qui se dégage de ce traitement formel plus abstrait, qui j'espère fonctionne bien, mais en tout cas ça tient vraiment au langage de Dory dans son langage de plasticienne.
Joséphine vous a parlé de cette plasticienne donc, et puis l'une des responsabilités, l'un des privilèges d'un directeur d'opéra, c'est de composer une distribution. Mais Joséphine, elle est aussi intervenue un peu dans la distribution, parce que les tessitures sont quand même très très différentes et assez atypiques.
Oui, donc un travail de distribution, effectivement, je ne l'ai pas monopolisé, c'est un travail qui s'est construit ensemble, entre Joséphine et moi. On a discuté des interprètes, des types de voix, etc. Et il y a certains des interprètes que Joséphine connaissait, qu'elle m'a suggéré, d'autres que j'ai amené moi. Enfin voilà, on a fait ça de manière assez dialoguée. Et effectivement, il y avait en tout cas de la part de Joséphine une volonté d'avoir à la fois des chanteurs lyriques, pour en tout cas quatre des rôles, mais que le cinquième rôle soit confié à une chanteuse folk, dont la voix est sonorisée et dont le type d'émission vocale est très différent du chant d'opéra, parce que c'était aussi un personnage plus jeune et aussi parce que ça correspond un peu à cette double appartenance de Joséphine, à la fois au monde de la musique classique et au monde des musiques actuelles, puisqu'elle est elle-même, outre son travail de compositrice pour des formations classiques, elle travaille aussi la chanson, elle est chanteuse, elle travaille avec des musiciens musique actuelle, comme elle a travaillé avec Benjamin Biolay, avec Damon Albarn, par exemple. Ça lui permettait de montrer un petit peu, enfin, ou en tout cas ça appartient à son écriture, de travailler dans différentes directions de langages musicaux. Ce qui est intéressant aussi par rapport à la distribution, c'est qu'on a fait la distribution avant de commencer l'écriture de l'opéra. C'est-à-dire qu'elle a composé vraiment en connaissance de cause à partir des voix des interprètes qu'elle allait avoir. Et donc ça, c'est toujours ça qui est intéressant dans les créations, c'est qu'on peut le faire pour des interprètes précis, quoi.
Ces interprètes, vous les avez choisis pour les voix. Je pense à Patricia Tchoff, bon, qui a une technique vocale absolument irréprochable. Et elle a quand même une capacité d'incarnation. Là, j'ai assisté à un morceau de répétition. Mais déjà, la façon dont, même si elle répète, donc elle n'est pas à fond, on a le frisson. Elle joue vraiment, elle interprète le rôle. Ça aide, ça, quand même, en metteur en scène.
Ah bah oui, pour moi, c'est un plaisir, évidemment, de travailler avec une interprète comme ça. Et elle n'est pas seule dans le cas, dans la distribution. Mais j'aime beaucoup, effectivement, les chanteurs qui ne sont pas seulement des chanteurs, mais qui mettent du contenu, qui travaillent le sens et qui s'investissent corporellement aussi dans ce qu'ils font. L'investissement physique de Patricia est formidable. Elle porte tout entière avec ses mains, avec son corps, avec sa voix, le personnage qu'elle a interprété, et avec une précision infinie aussi dans son travail. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec une interprète de ce gabarit.
Dans les ouvrages que vous avez mis en scène ici même à Avignon, bon, Don Giovanni évidemment, ne serait-ce que le personnage, ça parle de séduction, ça parle de rapport homme-femme, même de harcèlement. Il y a certaines séquences qui étaient quand même assez fortes dans la manière dont vous les aviez mis en scène. Bon, Peter Grimes, c'est le bouc émissaire, aussi un thème on ne peut plus d'actualité. Et là, quand même, on a trois sujets très très forts dans l'ouvrage et dans le livret de Ben Osborne. Pour vous, une œuvre contemporaine, il y a aussi le sens qui joue dans votre motivation et dans votre détermination.
Oui, absolument. Enfin, je pense que de toute façon, ce qui fait la force des œuvres musicales et théâtrales, et par essence l'opéra, bien sûr, qui rencontre ces deux arts, c'est d'avoir à la fois une beauté formelle, mais en même temps, cette beauté formelle n'existe que parce qu'il y a un contenu derrière et parce qu'il y a une force d'interpellation sur ce qu'on est, nous, aujourd'hui, dans notre humanité. Je pense qu'il y a à la fois, voilà, une interrogation sur le monde en général et puis même quelque chose de personnel. Enfin, on s'investit personnellement aussi dans ces questions-là et on se pose comme artiste, moi comme metteur en scène, mais les interprètes comme interprètes, la question de savoir comment eux agiraient par rapport à ça dans cette situation-là, quelle serait leur révolte ou leur acceptation ou leur adhésion aux comportements qui sont décrits par l'histoire, quoi. Donc c'est toute la richesse effectivement de ce travail théâtral qui s'appuie sur à la fois effectivement une écriture verbale, puisque c'est celle du livret, mais aussi de la musique qui induit aussi une forme de langage et qui induit aussi une forme de sens.
Léo, le chef, m'a précisé qu'il avait indiqué aux musiciens de l'orchestre que Joséphine Stephenson était une admirable coloriste musicale.
Oui, ça c'est sans doute très très particulier chez Joséphine, ce rapport au temps et ce rapport au rythme, qui n'est pas du tout un rapport, je vais dire, avec des angles aigus, mais qui est plutôt quelque chose qui est un peu méditatif. Et c'est aussi, même l'écriture du livret est un peu épique, c'est-à-dire on est plus dans un récit que dans des scènes jouées, vécues au quotidien, enfin avec des confrontations immédiates. On est souvent dans un rapport au temps qui est décalé. Effectivement, toute cette œuvre s'écoule un peu comme une longue, enfin pas trop longue d'ailleurs, hein, 1h20, comme une méditation sur le temps présent, on va dire, un peu comme Messi on le ferait.
Vendredi et dimanche prochain, ce sera un véritable événement. Ce sera la création d'un ouvrage lyrique, ici même, création mondiale sur le plateau de l'Opéra d'Avignon. J'ai écouté il y a quelques semaines une interview de Pascal Dussapin, très inquiet par rapport à la flambée des coûts, comme on dit, et à la restriction des budgets. Il craint que les commandes soient plus rares pour les musiciens. Je crois que Richard Brunel, qui dirige l'Opéra de Lyon, a décidé carrément de fermer son établissement pendant un mois. Alors vous me direz, bon, on en reparlera pour la prochaine saison. Mais est-ce qu'il y a quand même des menaces qui planent sur ce type de projet? Est-ce que dans l'avenir, on aura encore la chance de voir des ouvrages naître ici même?
Alors j'espère, donc, mais les menaces existent, hein, effectivement. Donc, ce n'est pas lié uniquement à la question du soutien ou non des collectivités. Ici, on a la chance, effectivement, d'être très soutenu structurellement par le Grand Avignon. On n'a pas de baisse de financement et une stabilité de l'engagement du Grand Avignon à notre regard, qu'il faut saluer. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a une évolution du monde économique avec des coûts de plus en plus importants, un besoin de billetterie qui est important aussi dans le financement des projets. Et il est clair que des œuvres contemporaines sont plus difficiles à vendre auprès du public. C'est moins repéré qu'une Traviata ou qu'une Tosca que les gens viendraient voir sans hésitation. Donc il y a un effort économique à faire particulier pour ce type de projet. Et effectivement, si la tension entre les coûts et les recettes continue d'augmenter, c'est des projets comme celui-ci qui risquent d'être menacés à long terme. Alors évidemment, moi, comme je suis un militant, je sais que je vais me battre jusqu'au bout pour que ça n'arrive pas. Mais effectivement, la tendance pourrait être celle-là, globalement, je vais dire, dans le monde. Oui.
À vendredi, alors.
À vendredi, avec plaisir. Merci.